Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec Brigitte pour vous parler des écoles sur notre département. Donc la commission départementale de l'éducation nationale s'est réunie au mois de février et ils ont annoncé la fermeture d'environ 17 écoles ou classes, mais c'est plus précisément sur eux, ils parlent de postes,
hein, plus que des plus
de écoles. Donc mais pour nous, un poste, c'est une classe en moins, voire une école en moins. Tu peux nous donner un petit peu plus d'éléments sur ces... cette commission?
Disons que c'est un conseil départemental, ça s'appelle la CDEN, c'est le Conseil départemental de l'éducation nationale, qui a lieu donc dans tous les départements hein, de France. Alors c'est une institution vieillissante, voilà. Je pense qu'elle aurait besoin de se remettre en question et d'être vraiment revue. Et là, c'est une des vues justement de la nouvelle loi qui nous ont fait passer là au mois de février. C'était au mois de février, je pense, sur
l'école de la confiance.
Sur l'école de la confiance. Cette école de la confiance, un titre bien ronflant pour dire que voilà.
On en reparlera tout à l'heure.
Tout à fait. Alors c'est vrai que ces CDEN, c'était la première de l'année. Il y en aura une autre au mois de juin qui viendront infirmer ou confirmer la suppression des postes. Ce qui est le plus à craindre, on peut comprendre qu'on puisse fermer une école parce qu'il y a des effectifs en baisse, un manque de population. Mais ça entraîne aussi, il faut le dire, la perte de la ruralité, puisque les jeunes gens qui viennent s'installer dans nos communes, ils veulent aussi avoir une école. Donc c'est un cercle vicieux. Donc le but final, c'est, bon, comme je le dis tout le temps, c'est de pouvoir garder le plus longtemps possible nos écoles ouvertes dans nos villages.
Oui, donc le préfet, les organismes de l'État disent, bon, on supprime un certain nombre de postes sur le département parce qu'il y a à peu près 600 élèves en moins. Hein, c'est bien les chiffres qu'ils ont donnés. Mais bon, si on le ramène au niveau du département, hein, ce qu'on disait dans la discussion, il y a 500 communes sur le département, ça représente un enfant par commune.
Oui.
Doit-on supprimer 17 ou 18 postes pour un enfant en moins par commune? On peut faire tout dire aux chiffres.
Tout à fait. Et c'est justement ce que je leur reproche, c'est justement de faire parler les chiffres et d'avoir une politique comptable. Les enfants, on a un système éducatif qui est de qualité, je pense, mais qui aurait besoin d'être amélioré. On s'aperçoit que les enfants arrivent en sixième, peu savent lire, compter ou écrire. Disons qu'il y en a quelques-uns, pas peu, une petite minorité qui ne le savent pas. Donc on pourrait se remettre en question sur ce côté-là. Et c'est pas en regroupant nos écoles, en faisant des cellules encore plus importantes qu'on va réussir à ça, je pense. C'est pas le fait, nos petites écoles, nous, dans nos campagnes, sont des écoles de proximité où on connaît les instituteurs ou les institutrices, les directeurs d'école, où on connaît les enfants. Et moi, je sais que pour notre village et le village avec qui je suis en regroupement pédagogique intercommunal, Aiguerand des Gardes-Deuil, on a de très bons résultats quand nos enfants arrivent en sixième. Et si toutes les écoles de France étaient comme les nôtres, on pourrait se vanter d'avoir un système éducatif florissant. Or, ce n'est pas le cas. Et je pense que l'éducation nationale aurait tout à l'effet à se remettre en question, mais c'est compliqué.
Oui, on constate parallèlement que bon, plus on regroupe, plus il y a des élèves dans des classes, plus on ferme celle-ci pour en avoir encore un petit peu plus d'élèves dans chaque classe. Donc je crois que le gouvernement a mis en place des classes de 12 dans les zones d'éducation prioritaire. Ne serait-il pas plus intéressant aussi, pour maintenir notre ruralité, d'avoir des classes de 12 dans nos campagnes?
Ben oui, bien sûr. Non, moi, ce que je plaide depuis le début, je trouve que ces classes à 12, ça part d'un bon sentiment. On s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont en difficulté et que maintenant, on ne peut plus les faire redoubler. Donc, il faut absolument qu'on arrive en sixième, voilà, avec des bases solides. Et donc, le fait d'avoir ces classes, des demi-classes, je trouve ça bien. Mais je trouve que c'est là aussi un manque d'équité vis-à-vis des élèves en zone rurale qui ne sont pas en REP, comme les nôtres. Et je me dis, c'est pas normal qu'en France, il y ait deux vitesses pour l'enseignement. On a toujours dit que l'enseignement était pour toute la population le même. Et donc, je ne vois pas pourquoi on commence d'ores et déjà à faire des séparations. Et les ZEP, voilà, nous, dans nos écoles rurales, on a aussi des enfants en difficulté qui sont souvent issus de familles, elles aussi, en difficulté, et qu'on retrouve à l'école, voilà, et qui auraient bien besoin aussi d'avoir des CP dédoublés.
C'est le cas cet assis où il y a une RAZED où on va supprimer un poste.
Oui, bah justement, là, alors c'est là aussi, là, on a des enfants qui ont de plus en plus besoin d'aide et on supprime des postes de RAZED. Alors, les RAZED, ce sont des aides, hein, pédagogiques qui viennent en appui des professeurs des écoles et qui aident les enfants, voilà. Et ça, par contre, toutes ces aides-là, on les supprime. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on avait des classes de transition, on faisait 2 ans en 3 ans et ça permettait à des enfants qui perdaient pied de faire 2 années en 3 ans, et elle reprenait ensuite le cours où les élèves reprenaient le cours normal de la scolarité, puisqu'on a, on peut perdre pied pendant 1 an, et c'est pas... Mais maintenant, on supprime tout, on est... Et j'arrive pas à comprendre cette façon, on est tous différents, donc on apprend à des vitesses différentes, et moi, ce que je voudrais, c'est que, justement, on ne joue pas sur le nombre d'enfants qu'on a en moins dans notre département, mais qu'on joue sur le nombre d'enfants qu'on a en classe. Pourquoi avoir des classes de 25 si on peut avoir des classes de 14? Voilà.
Non, c'est pour permettre effectivement à nos enfants de pouvoir s'en sortir et de pouvoir vivre à la campagne. Donc je vais revenir un petit peu sur cette question de la ruralité, qui est un des fers de lance de l'association des maires ruraux. En quoi ces fermetures de classes font que ben, la ruralité, il n'y a plus y avoir d'habitants bientôt dans les petites communes, quoi.
Oui, mais bah parce qu'on sait tous que l'obligation scolaire, elle est obligée pour tous. Donc, quand vous avez des familles qui arrivent dans nos villages, la première chose qu'ils demandent, c'est s'il y a une école, à combien est le collège, s'il y a un ramassage, s'il y a... Voilà. Et en fait, la réponse qu'on a à ce moment du gouvernement, c'est de nous pondre une nouvelle loi en nous faisant rapprocher... Justement, les classes primaires du collège, donc du chef-lieu de canton. Et si on veut donner un coup de couteau dans la ruralité, ben on va pas s'y prendre autrement.
On va revenir après sur un petit peu cette question-là, mais la ruralité aussi, c'est une école, c'est le maintien de certains services publics, mais aussi qui peuvent être privés, comme une boulangerie, une boucherie, un bureau de tabac, un petit restaurant. Si
Bien sûr.
dans la commune, il n'y a plus ça.
Ben, l'école est un rôle pilier dans la commune. C'est un levier structurant du territoire. Ça permet à des familles d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir une boucherie, d'ouvrir une boulangerie, de vivre sur place. Et c'est aussi pardon, la vie d'un village et la vie des associations qui la forment. Hein. Enfin, voilà, c'est la vie associative aussi qui est en cause.
Donc, pour vous actuellement, bon, ce qui est important, donc, c'est d'avoir les enfants dans lesquels les municipalités font beaucoup d'efforts en général, la cantine, les transports scolaires. Tu pourrais dire un petit mot sur les transports
Ouais,
scolaires, parce que
ouais.
là, je crois qu'il y a des choses
Il
à
y a
dire.
aussi beaucoup de choses à dire, ouais, sur le transport scolaire. Eh bien, c'est-à-dire que, bon, moi, je suis présidente du transport scolaire Montpont-Villefranche, hein, au niveau du collège. Donc, bon, il n'y a pas de problème particulier au niveau de ce transport, qui est très bien organisé et qui fonctionne bien, hein, dans la plupart des cas. Par contre, on nous... Pardon. Par contre, on a été l'autre jour en réunion, puisque maintenant c'est la région qui a la compétence, et là aussi je ne comprends pas que la région ait pris cette compétence, puisque quoi que du plus proche transport départemental. Je veux dire, la région est bien obligée de se reposer sur les départements pour organiser un transport. Donc c'est juste la tirelire qui est plus grosse. Mais je veux dire, après, c'est au niveau des départements et au niveau des communes qu'on va traiter le transport des enfants. On ne va pas faire venir un transporteur de la Creuse pour venir ramasser des élèves en Dordogne et vice-versa. Donc je ne comprends pas bien l'intérêt enfin, la compétence transport au niveau de la région. Mais bon, de ce côté-là, donc on avait donc une réunion. Et ben, là, j'ai appris qu'on on avait de plus en plus de difficultés à trouver des chauffeurs pour les bus. Donc, on nous dit qu'on va transporter nos enfants, ce qui est déjà pas réjouissant parce que des petits bouts dans des cars, bon, il y a des cars de plus ou moins gros, mais bon, c'est pas tellement rassurant. Il faut savoir que pour les enfants de maternelle, il faut un accompagnateur. Donc, jusqu'à l'âge de 6 ans, ben, vous êtes obligé d'avoir le chauffeur, un accompagnateur dans le bus. Et ensuite, on est en train de vouloir transporter nos enfants, alors que d'après la région, d'après toutes les personnes qui siègent à la région, on a de plus en plus de mal à trouver des chauffeurs de bus. Alors, vous m'expliquerez un peu comment est-ce qu'on va faire. Parce que là, moi, je suis assez terre à terre et assez. Et là, je me pose des questions. On a des enfants sur notre territoire qui font du pré-ramassage. On a des pré-ramassages. Moi, j'ai un territoire de 3700 hectares, un peu moins. Et j'ai un pré-ramassage. Ben, le pré-ramassage, il dure une heure chez moi. C'est-à-dire que je distribue un peu en étoile. Je vais chercher des enfants dans les lieux dits, dans les maisons. Je les ramène à l'école du village. Et on fait comme ça en étoile pour ensuite les emmener soit à l'école des Gurandes, soit ils restent à Saint-Barthélemy. Si demain, on me force à emmener ces enfants à 10 km au chef-lieu de canton, ils vont déjà avoir fait du transport scolaire, ils vont être en stockage à la garderie en attendant qu'on les reprenne en bus pour les emmener à Montpont. Je vais dire, mais c'est pas comme ça qu'on veut l'école et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner.
Ça sera les parents qui le feront.
Ben, je sais pas, il y a des parents qui ont les moyens d'emmener leurs enfants à l'école, il y en a qui n'ont pas.
Mais avec les difficultés qu'on a, chacun qui travaille, c'est pas toujours facile, et les parents sont venus habiter dans nos petites communes parce que les loyers sont moins chers, l'acquisition de maisons, c'est pareil, c'est moins cher. Donc, des fois, ils partent de bonne heure. Et puis, à partir du moment où la commune fait des garderies, des transports, ça permet effectivement pouvoir rester sur la commune.
Bien, si on veut conserver nos écoles, c'est le choix qu'ont beaucoup de maires. Enfin, moi, je vois, on a une amplitude horaire le matin en périscolaire, on ouvre à 7h15. Pourquoi 7h15? Ben, parce qu'on a une maman qui travaille la crèche, commence à 7h30. Donc, si elle veut nous laisser ses enfants avant d'aller à l'école, eh bien, il faut qu'on embauche plus tôt. Donc, à 7h15, il y a quelqu'un pour garder ses enfants. Et pour une autre, eh bien, qui débauche le soir à 19h, eh bien, on est encore en périscolaire jusqu'à 19h. Mais aller chercher des écoles ailleurs ou en ville où ça ferme, ça a une amplitude de 7h15 à 19h. Mais on est là pour rendre service à notre population.
Donc, on va commencer à parler de ce projet de loi de M. Blanquer sur l'école de la confiance. C'est bizarre parce qu'avant, on n'avait pas confiance à l'école.
C'est l'établissement des savoirs fondamentaux. Alors là, moi, ça me choque. Je veux dire, les savoirs fondamentaux, je croyais que jusqu'à maintenant, on était à l'école pour avoir des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, comprendre. Pour moi, c'était fondamental. Mais bon, jusqu'à maintenant, voilà, ils aiment beaucoup les titres ronflants. Il y a eu aussi l'école du socle qui avait été lancée, introduite par M. Fillon en 2005. Bon, l'école de socle, c'était pour avoir un ensemble de compétences et de connaissances de tous les élèves que tous les élèves devaient acquérir avant d'avoir 16 ans. C'est-à-dire le socle, c'était CP-CM2. Bon, c'est louable en soi. Hein. On dit pas combien de temps ils doivent faire, de combien d'années ils doivent mettre pour l'avoir. Je trouve que c'est aussi rassurant parce qu'il y a des enfants qui ont un rythme d'apprentissage beaucoup plus lent. Mais voilà, maintenant, on est en établissement des savoirs fondamentaux. Alors là, moi, je me dis que là, il y a quand même un problème, quoi. Voilà. Ils ont voté ça en commission le 31 janvier. En plus, ça a été adopté donc, et sans aucune concertation avec les maires ruraux, ni avec personne, a priori, ni même avec les enseignants, puisque ce sont les premiers à monter au créneau, puisque eux, ce qu'ils ont comme crainte, c'est que, ben, de perdre leur responsabilité qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire d'avoir des établissements publics qui associeraient donc le collège et des écoles dans un secteur structure administrative. Mmh. Et puis tu m'avais fait remarquer, justement à bon escient, que ça pouvait être sur le même site ou pas sur le même site. Alors c'est là où je ne comprends pas. Parce que moi, par exemple, je suis à Montpont, je le répète, 10 km Saint-Barthélemy. Demain, on me ferme mon école, on me la rapproche du collège, mais on peut me la laisser à Saint-Barthélemy. Donc, elle croit, j'arrive pas à comprendre quel est le bénéfice pour les élèves, ni même pour les enseignants. Alors, voilà, si ce n'est peut-être encore une histoire d'économie, parce que j'ai entendu dire qu'on voulait dessaisir le directeur de son rôle de directeur pour pouvoir le confier à son rôle au principal du collège. Est-ce que le principal du collège est prêt aussi à accepter cette responsabilité ? Je me questionne aussi en disant, on plaint toutes les années les petits sixièmes qui arrivent au collège parce que c'est les plus petits, parce que c'est des petits choux-fleurs qui sont tout tendres et tout ça, puis on va y mettre des CM2, des CM1. Donc là, j'ai un gros problème.
On fait une petite pause.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ces fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Oui, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, ce projet de loi qui vient de tomber sans aucune concertation avec les syndicats d'enseignants, mais aussi avec les maires. Et j'écoutais la semaine dernière M. Blanquer sur France Inter qui disait que si ce projet, les élus de proximité n'en voulaient pas, il ne serait pas appliqué. Alors j'ai du mal à comprendre qu'ils montent un projet de loi et qu'ils le retireraient parce que les élus, ils ont bien une idée derrière la tête.
Bien sûr. On ne monte pas un projet de loi, on ne fait pas voter une loi par les députés, et puis pour la faire sans aucune concertation auprès des élus ou des enseignants, pour pouvoir ensuite l'abroger. Je pense qu'ils essayent de frotter les maires dans le sens du poil. C'est ce qu'ils essayent de faire, mais à force, là, maintenant, c'est une attaque pure et dure contre la ruralité. Et je pense qu'il va falloir que l'on arrête d'adopter la concentration à tout prix. Je veux dire, on est en train de déshabiller nos villages pour les concentrer.
Ce qu'on voit, c'est que donc aujourd'hui, pour donner une image, le chef-lieu de canton, où il y a toujours, a priori, un collège, le principal de ce collège-là, aurait la gestion de toutes les écoles primaires de son canton.
Je ne sais pas, parce que finalement, on a eu un projet de loi qui a été, pondu en catimini, auquel on n'a pas été préparé. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que le collège et les écoles concernées seront dissous dans une nouvelle structure? Mais la nouvelle structure, c'est quoi? Qui va la construire? Et où les accueils périscolaires? Où et quand? La restauration? Par qui? Pourquoi? Pour les enfants de maternelle ou les enfants de CP ou pour les collégiens, relèveront-ils d'une même structure? Il y a déjà... les directeurs d'école seront-ils maintenus ou pas?
Tu peux dire un petit mot sur les directeurs d'école, par exemple? Quel type de relation vous avez, les maires, avec les directeurs d'école?
C'est une concertation de tous les jours. Je veux dire, dès qu'un directeur d'école a un problème avec un parent d'élève, avec matériel ou quoi que ce soit, il se retourne vers le maire. Nous, on est attentif au bien-être de notre école pour justement qu'elle puisse rester au sein du village. Donc, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse enlever le directeur d'une école. Après, on va parler à qui ? Il faudra qu'on aille à Montpont voir la principale pour lui parler d'un loquet de fenêtre ou d'un enfant qui, en instance de divorce, les parents ne veulent pas que ça soit tel ou tel qui vienne les chercher le soir. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des problèmes. Il faut qu'on ait de la proximité et pas de la concentration à tout va à 15 km.
Oui, il faudra aller... au chef-lieu de canton, voir le principal à chaque fois qu'il y a un problème sur...
Mais c'est la ruralité, là, moi, j'arrive pas à comprendre. On est 20 millions de ruraux, personne ne se rebelle, au-delà de tout ce qui existe actuellement. Je parle des gilets jaunes, là, Mais je veux dire, les ruraux, on est tous ruraux, on est 20 millions de ruraux, là, mais il suffit de dire qu'on ne veut pas certaines choses, et ils vont nous écouter, quand même. On n'a pas envie d'être regroupés, on n'a pas envie de concentration, on a envie de service public, et là, on perd tout. L'école, c'est un service public, les mairies, c'est un service public. On perd nos cartes d'identité qui étaient si chères, et nos passeports et tout le reste. Et on va être quoi on va être la notice nécrologique et puis les chiens écrasés. On n'aura plus d'école, on n'aura plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Personne n'a envie de vivre comme ça. Et on va devenir quoi? Les promenades du dimanche pour les gens qui arrivent de la ville. Et puis, si ce n'est plus entretenu par les ruraux, il n'y aura plus rien.
Puis cette concentration fait que chaque enseignant, chaque école qui a son petit projet pédagogique, qui est différent d'une école à une autre, puisque c'est pas toujours la même population, on irait vers un projet unique pour tous les enfants du canton et qui poserait certainement plus de problèmes que...
Une université. Universalité. Qui n'est pas bonne pour tout le monde. Chacun vit à son rythme et ses affaires. Moi, j'arrive pas. J'ai un peu de mal. De nombreuses questions restent en suspens. On a quand même des ATSEM au niveau communal. On a du personnel, des cantines. On a plein de choses. Qui va payer quoi? Quelle taille maximum pour un établissement? Le transport, j'en reparle pour les élèves et notamment les plus jeunes. Je veux dire, c'est pas raisonnable d'aller faire voyager des enfants dans des bus alors qu'on a des structures locales qui sont très bien. Moi, j'ai une école de 1862. Ah, bien sûr, elle n'est pas récente, mais elle est confortable, elle est bien chauffée, bien insonorisée. On a du matériel, on a des tableaux VIP, on a plein de choses qui fonctionnent bien, qui sont nécessaires au savoir de nos enfants. Moi, j'estime que j'ai pas envie de perdre mon école et je ferai tout en tant que maire rurale pour la conserver. Voilà, moi, je pense que c'est une bataille noble et puis la folle idée de concentration, une absence de vision stratégique. Si encore on nous avait vendu ça pour une meilleure pédagogie, une meilleure formation des instituteurs, une meilleure... Moi, j'ai discuté de ce projet avec un instit, là, pas plus tard que la semaine dernière, et il m'a dit, vous savez, Mme Cabirolle, s'il y avait eu des stages quand j'ai préparé mon école d'enseignant, s'il y avait eu des stages, jamais j'aurais fait instituteur.
Et là, bon.
Donc là, on peut justement, ils demandent de faire des stages en milieu professionnel, d'être baigné dedans avant pour être, parce que c'est quand même un métier usant.
C'est une émission avec beaucoup d'interrogations, mais je vais encore en poser une autre interrogation. Prenons des territoires où il y a deux collèges. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on ira vers la fermeture avec cette concentration du plus petit collège au bénéfice du plus gros, et avec derrière le problème de toutes les écoles primaires qui seraient donc de fait liées à cette question?
Oui, mais tu as tout à fait raison. Et justement, se pose le problème. On passe pour l'instant, on parle de base volontariat pour faire fusionner des écoles primaires, c'est-à-dire CM1, CM2, avec les collèges pour le même bassin de vie, tout ça. Ça veut dire que demain, il y a des écoles du chef-lieu de canton ou à côté qui vont être regroupées avec le collège. Est-ce que ça va faire un enseignement à deux vitesses? Nos écoles qui resteront à 10 km et qui n'auront pas la proximité du collège, est-ce que ça va être... c'est aussi un manque d'équité.
Puis surtout avec des classes de 25 à 30 élèves. Quel enseignement on va donner à nos enfants?
Je ne sais pas, je me pose des questions.
Se pose effectivement de nombreux problèmes. Comme tu disais, après le transport, tout derrière, le fait que,
Tu parlais des deux collèges. Les collèges, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est carrément à fermer un collège.
Ça sera quoi?
C'est tout sur l'économie. Moi, je vois ça, c'est absolument basé sur l'argent, toujours l'argent. Mais je ne sais pas si on va continuer comme ça longtemps, cette marche en avant. Mais quand tout le monde sera arrivé en ville, qu'est-ce qu'on fera des ruraux, quoi? Je veux dire, on va faire des zones d'Indiens.
Après, ça va poser des problèmes. On sait que là où il y a des concentrations, où il n'y a pas de travail... On fait des ghettos autour des villes qui posent un certain nombre de problèmes, les enfants derrière. Donc, est-ce qu'on veut accentuer ce type de...
Je ne sais pas ce qu'on veut faire exactement. Moi, j'ai peur qu'on fasse des zones de non-droit à un moment donné. Des ghettos aussi, des zones de non-droit parce que il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus aucun... Moi, j'arrive pas bien à avoir la vision qu'a ce gouvernement de l'éducation nationale.
Donc, ce qu'on peut se dire actuellement, c'est que dans notre petite commune, malgré les problèmes que l'on peut rencontrer chaque jour, on maintient des services publics, entre autres celui de l'école, et puis aussi derrière le maintien de notre mairie, parce que c'est important, parce que si demain il n'y a plus d'évolution de population, on voit une régression des populations, nos mairies risquent d'y disparaître, elles aussi, donc il y aura moins de services publics. Et aujourd'hui, donc, l'association des maires ruraux se prononce pour cette ruralité, pour permettre de faire vraiment vivre nos campagnes, parce que c'est une nécessité, c'est utile, comme le dit notre mot d'ordre. Notre commune, elle est utile, et je crois qu'il faut continuer comme ça. Nous posons un certain nombre de questions pour l'intérêt des enfants, mais aussi l'intérêt des populations à vivre dans nos campagnes. Deux minutes.
Oui, mais bien sûr. Puis je voulais rajouter deux petites choses concernant l'école. Les RPI, dont nos regroupements pédagogiques intercommunaux, sont une taille idéale pour nos communes. Enfin, je veux dire, à plusieurs communes, on a su mutualiser nos enseignements et nos locaux pour faire des écoles qui restent rurales. Par contre, là maintenant, les maires ruraux sont absolument le vent debout devant ce projet d'école de la confiance, école de la confiance et des savoirs fondamentaux, je te dis pas, donc il y a une mobilisation contre ce projet de loi, qui nous fait craindre beaucoup de choses, parce que il y a l'avenir des enseignants, l'avenir de nos communes, et l'un va pas sans l'autre, et là ça me pose question.
Oui, donc tu as raison de dire que aujourd'hui, les élus, c'est des gens responsables. Ils ont été capables pendant des années de répondre à toutes les situations, de permettre à la population de rester sur place et de permettre aux enfants de pouvoir continuer. Je crois que ça, c'est le point le plus important de notre combat.
Je pensais que M. le Président de la République et puis son ministre de l'Éducation nationale s'étaient rendu compte que les maires ruraux on était là et on était des gens sur lesquels ils pouvaient s'appuyer, mais dès qu'on a le dos tourné, ils nous fusillent. Donc à un moment, on se pose des questions parce que on est capable de travailler avec eux, de discuter, mais par contre, l'inverse n'est pas vrai puisque eux, ils n'ont même pas eu le courage de nous parler de ce projet de loi. L'école de la confiance, sans en parler aux élus et aux enseignants, je trouve que voilà.
Bon, Brigitte, je te remercie. On va finir cette émission. Eh bien, on se retrouve le mois prochain, peut-être sur...
Encore pour l'école, sûrement.
Peut-être sur l'école, mais d'autres sujets...
Et peut-être des réponses à nos questions.
Voilà. Merci. Au revoir. Au mois prochain.